1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire les premiers versets et puis surtout versets 8 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et verset 8, celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Voilà, les vacances tirent à leur fin. Et peut-être le sujet de ce matin serait-ce la dernière chose à laquelle vous aimeriez penser. Mais pourtant, c'est ce que j'ai retenu pour nous, le sujet du travail. Le travail, le boulot, comme ces préceptes, ces exhortations de Paul ici. Paul écrit aux Thessaloniciens et le contexte de cette lettre est très intéressant parce que Paul, il avait passé 3 semaines dans cette ville. Et pendant ces 3 semaines, il avait évangélisé, il a implanté une église, et puis il a dû fuir précipitamment pour sauver sa vie. Sa vie était menacée. Donc après 3 semaines de travail, il a dû partir. C'est déjà formidable de voir ce qu'il a pu faire en 3 semaines, les enseignements qu'il a donnés, l'évangile qu'il a prêché, cette église qui a démarré. Mais on comprend qu'à 3 semaines, c'est court, c'est rapide, et donc il va écrire cette lettre pour prendre des nouvelles, pour voir si leur foi est en bonne santé, et puis les encourager à vivre leur nouvelle foi dans tous les domaines de la vie. Et donc ici, il aborde la question, le domaine du travail. Cela fait partie des choses qui vont devoir changer lorsque Christ entre dans une vie, la conception du travail, du monde professionnel. Cette question revient encore en 2 Thessaloniciens. Donc il semble que c'était un domaine de la vie où justement dans la culture ou dans cette ville, en tout cas parmi les Thessaloniciens, il y avait peut-être quelques lacunes ou quelques notions erronées concernant le travail, parce que voilà, ici il les encourage, il leur donne quelques recommandations, et puis en 2 Thessaloniciens il va être même un peu plus strict, rappeler un peu à l'ordre. Donc visiblement il y a quelque chose dans la culture autour d'eux, de ces chrétiens, et qui avait peut-être une mauvaise conception au niveau du travail. Donc il les encourage ici à travailler. Et c'est un peu ce que nous voulons célébrer ce matin, c'est la vision chrétienne du travail, la beauté et la bonté du travail, le travail que vous accomplissez, votre métier. Alors Paul nous donne ici quelques principes pour mieux vivre le travail, pour découvrir la beauté du travail. Alors dans ces versets, nous allons voir 2 raisons pour travailler et puis 2 recommandations qui vont nous aider à mieux vivre la chose. Alors bien sûr, je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas après ce court message que vous allez vivre le paradis au travail cette semaine ou ce mois ou cette année, mais sachez que c'est un domaine aussi que Dieu rachète, que Dieu avec Christ qui peut devenir noble et beau à ses yeux, et j'aimerais vous encourager dans ce sens. Alors on va commencer avec 2 raisons, après 2 recommandations. Une raison de travailler, de partir au travail, qui est exaltant ici, que nous découvrons, notamment dans les premiers versets, c'est que c'est une manière de plaire à Dieu. La pensée générale de ce chapitre, c'est comment vivre une vie qui plaît à Dieu. il commence le chapitre en disant, voilà, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Donc, il va donner plusieurs préceptes, comme il dit, pour une vie qui plaît à Dieu. Alors, tout d'abord, le premier précepte, c'est les versets que nous avons sautés, c'est justement posséder son corps dans la sainteté, dans la pureté, contrairement à la débauche. Donc, voilà, c'est puisque Dieu est un Dieu saint, ce qui plaît à Dieu, c'est une vie sainte. C'est un peu ce que le pasteur Vincent rappelait la semaine dernière. Donc, la pureté, savoir posséder son corps, éviter la débauche. Ça, c'est les versets que nous n'avons pas lus. Mais les versets qui nous intéressent ce matin, c'est après, c'est une deuxième principe, un deuxième précepte dans une vie qui plaît à Dieu. Et c'est le travail. C'est le travail. Quand je travaille, quand je pars au boulot, eh bien, je donne plaisir à Dieu. Je reflète sa nature. La première semaine de l'univers, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a travaillé, il a œuvré, il a créé, et nous sommes créés à son image. Alors nous aussi, nous avons le privilège de travailler, de produire, de créer, de mettre de l'ordre dans le chaos, ou bien d'innover, d'entretenir, de rendre le monde habitable, tout comme Dieu a fait. Eh bien, c'est notre vocation ici sur la terre, rendre le monde habitable, bon, comme Dieu a fait, tout comme Dieu. Et ça, puisque Dieu est ainsi, lorsque nous reflétons ce caractère de Dieu, ça lui plaît. Donc, en travaillant, c'est une vie qui plaît à Dieu. Il faut toujours se rappeler, je pense, que le travail en soi n'est pas une conséquence de la chute. C'est vrai, les ronces, les épines, la sueur du front, oui, ça c'est la conséquence de la chute. Il y a une malédiction qui frappe ce monde à cause du péché. Et ça peut donner l'impression que le travail en soi est une malédiction, est une chose désagréable dans la vie. Mais ce n'est pas tout à fait la vision de la Bible. Le travail est bon en soi, elle était là avant la chute. Et puis Dieu, depuis la chute, c'est la bonté, la grâce de Dieu, depuis la chute, il est en train de restaurer, de racheter le monde, de défaire la malédiction. Et donc, pour celui qui connaît Christ, qui vit avec Christ, il peut goûter, retrouver un peu, déjà ici et l'éternité, enfin, parfaitement, il peut goûter à la bonté, la beauté du travail, de la productivité, de la créativité. Et ça, c'est la vision qu'on trouve chez les protestants, notamment. C'était Luther et Calvin, il y a 500 ans, qui ont introduit une nouveauté dans le monde, et en Europe en tout cas, en disant, votre travail, c'est une bonne chose, c'est votre manière de plaire à Dieu, de vivre une vie qui glorifie Dieu, votre travail, la manière que vous travaillez. Et ils ont réussi à changer les mentalités, de sorte qu'ils ont vraiment changé l'éthique au travail. Savoir, et c'est exaltant, c'est réjouissant de savoir, notre travail, mon travail, ça plaît à Dieu, ça donne gloire à Dieu. Or, en général, on envisage le travail autrement, c'est un peu le problème dans le monde. Il y a une différence dans le monde quand on pense au travail par rapport à la vision de la Bible. C'est-à-dire, beaucoup, on voit le travail comme une chose nécessaire dans la vie, mais si on travaille, c'est pour jouir d'autres choses. Donc, on travaille, mais c'est en vue des vacances, c'est en vue du salaire, c'est en vue d'une jouissance autre que le travail. Alors que la vision de la Bible, c'est que le travail en soi peut être une jouissance, peut être une bonne chose. Et ça va beaucoup changer la manière de travailler, la manière de partir au travail. Il y a eu un fameux ouvrage de Max Weber, c'était en 1905, et le titre de l'ouvrage, c'est « L'éthique protestante ». Et en fait, il a constaté les différences dans les pays catholiques et les pays protestants en Europe. Et le constat, c'est que les pays protestants avaient quand même été plus avancés au niveau du travail, il y avait des meilleures situations, une économie plus avancée. Et même dans les pays catholiques, c'était les milieux protestants qui en général étaient plus aisés, où il y avait voilà, puisque le travail réussissait mieux. Et donc il essaie d'expliquer ça et de creuser un peu pourquoi cette différence. Et c'est ce qu'il a constaté, il y avait cette différence dans la manière de concevoir le travail. Chez les uns, le travail est, voilà, selon la volonté, une fin en soi, quelque chose qui plaît à Dieu, qui donne gloire à Dieu, et donc on peut le faire, et en le faisant, c'est une bonne chose. Alors, ailleurs, la notion, c'est que, voilà, c'est toujours en vue d'obtenir, c'est en œuvre pour un salaire, la fin, c'est pas le travail en soi, c'est le gain que ça peut nous emporter, l'intérêt personnel qu'on peut en tirer, et vraiment, ça change la manière de concevoir, et puis ça change la qualité de travail qu'on va faire. Si nous pensons que le travail en soi est bon et plaît à Dieu, on va être porté à faire une bonne chose. Si le but, c'est simplement finir la journée et avoir le repos, la vacance ou le congé, on va travailler autrement. Donc ça, c'est déjà une chose qui peut nous réjouir, nous encourager. Le travail n'est pas une parenthèse fâcheuse de votre vie. Non, c'est un trésor. Le proverbe dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le trésor, c'est pas même le verset dit, c'est pas le salaire qu'on gagne de l'activité. Le trésor, c'est l'activité, la productivité. On se rappelle que le paradis, ce n'est pas de ne rien faire. Pour Adam, le paradis, c'était de s'occuper d'un jardin. Il y avait un travail, c'était le paradis pour lui. Pour les anges, au paradis, ben, le paradis, c'est ne rien faire. Les anges sont au service de Dieu, très actifs, combattants. Et voilà, ils s'épanouissent, ils jouissent dans l'activité. Alors, on a cette notion, moins je travaille, plus je suis heureux. Mais ça, finalement, ce n'est pas une devise chrétienne. Moins je travaille, plus je suis heureux. Non, votre travail plaît à Dieu. Et déjà, ça nous permet de se réjouir. Deuxième raison pour le travail, donc une raison, c'est que ça plaît à Dieu. Deuxième raison ici que nous découvrons, ça va vraiment nous aider à mieux vivre le travail, je pense. Et c'est quand on examine les versets 9, 10 et 11. Notamment les liens entre ces versets. C'est intéressant comme il parle ici. C'est une seule phrase. Il parle de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, quand vous avez vous-même appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. Et c'est aussi ce que nous vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. En fait, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, travaillez. Abondez dans cet amour fraternel en travaillant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le travail est un geste d'amour envers les autres, envers les frères, envers la famille, envers même le monde du dehors, envers ceux du dehors. Voilà, c'est une manière d'aimer et d'aider les autres. Et ça, je trouve ça, c'est très valorisant, c'est très important quand on pense à notre travail, notre métier. C'est en travaillant, je manifeste l'amour, je fais du bien aux autres, j'aime mon entourage. Et voilà, ça permet de s'épanouir. Parfois, nous avons une vision de l'amour fraternel. C'est être tous assis en rond, en se tenant les mains, en se racontant sa vie. On appelle ça partage des sujets de prière, tout ça. Mais ce verset dit que l'amour fraternel, c'est aussi travailler, c'est s'occuper de ses affaires, c'est partir au travail pour ne pas être à une charge des autres. Il dit même cette phrase qui est un peu forte pour nous, afin que vous n'ayez besoin de personne. Il y a un part de l'amour fraternel, c'est travail pour voir aux besoins de sa famille, des siens. Et ça fait du bien à toute l'Église, à toute la société. Alors, je pense à vous. Votre travail vous empêche peut-être d'être à toutes les réunions de l'Église. Vous en souffrez, certainement. Et selon ce verset, c'est pas forcément un manque d'amour fraternel, mais c'est peut-être une manière d'être une bénédiction aux autres, d'être fidèle dans votre travail. de répondre aux besoins parfois lourds du monde professionnel, c'est une partie de l'amour fraternel. Alors c'est sûr que nous avons besoin des uns des autres. Quand ce verset dit « afin que vous n'ayez besoin de personne », c'est vrai que l'autosuffisance, en général, n'est pas encouragée dans la Bible. « J'ai besoin de personne », c'est presque un côté orgueilleux dans tout ça. Et nous sommes appelés dans l'Église à s'occuper les uns des autres. Il y a toute une catégorie de personnes dans les temps bibliques et encore aujourd'hui qui ne pouvaient pas travailler, donc l'Église était censée venir aux besoins, je pense aux veuves par exemple. Donc oui, il ne faut pas prendre ces versets comme un appel à l'autosuffisance et chacun s'occupe de ses affaires, on ne regarde pas ni à droite ni à gauche, mais vous voyez bien le sens, je crois, que Paul veut donner, c'est que travailler, c'est une manière d'aimer les autres, d'aider les autres, dans le sens de ne pas être un paresseux, de ne pas être un parasite, mais si j'ai à fournir mes besoins, les besoins de ma famille, je peux aussi aider les autres dans l'Église, et c'est ainsi que l'amour fraternel se passe bien. Alors si je pars au travail avec cela en tête, là encore, je pense que ça va changer la manière de travailler. Voilà, je peux vraiment aimer, aider les autres dans mon entourage. Je me souviens toujours d'un conseil basique de mon père quand je faisais mes études. Voilà, son conseil simple, c'était « Choisis un métier où tu peux aider les gens et tu seras certainement plus heureux. » Choisis un métier où tu peux aider les gens. Et quand on y pense, cela laisse un vaste choix de métiers parce que, je dirais dans un sens, quasiment tous les métiers honnêtes, légaux, tout ça, tous les métiers ont une dimension utile qui aide les autres, qui aide la société. Et c'est ça le travail, c'est la beauté du travail que Dieu a mis en place. Il veut qu'on travaille, c'est pour aimer les autres, c'est pour aider les autres. Et chacun de vous, vous avez un poste, vous avez un travail, certainement qui aide la société, qui permet d'aimer les autres. Bien sûr, si on oublie cela, ça va se gâter ou bien on va moins bien travailler, on va souffrir au travail. Si en tant que médecin, on veut aider, aimer les gens, qui est très normal pour un médecin, et certes, on sera un bon médecin. Mais si on est médecin uniquement pour le salaire, là, on sera certainement un mauvais médecin. Si on est professeur ou fonctionnaire, c'est des rôles qui ont une grande utilité publique. Si on est là pour aider les gens, voilà, on va faire beaucoup de bien. Et on va s'épanouir. Mais malheureusement, on vit dans une société qui de plus en plus choisit ses métiers uniquement pour avantages personnels, pour les horaires, pour les vacances, pour tout ça. Et effectivement, si on aborde le travail comme ça, on va faire un mauvais travail, ou bien on va toujours faire le minimum, ou on ne pourra pas être une bénédiction comme les chrétiens sont censés l'être. Donc, un travail qui aime les autres, ou penser que par mon travail, j'aime les autres, j'aide les autres, ça c'est beau. Bien sûr, ce serait le métier que Dieu nous donne pour aider les autres. Ce n'est pas forcément le travail le mieux payé ou le mieux placé, mais ce serait épanouissant de savoir que je peux abonder en amour fraternel, en amour envers mes frères, ma famille, ceux du dehors. Si je travaille, partir au travail, c'est un geste d'amour fraternel. C'est une bonne nouvelle ce matin. Donc, deux raisons pour le travail. Ça plaît à Dieu, ça permet d'aimer les autres. Et puis maintenant, j'aimerais vous donner deux recommandations qu'on trouve ici, que Paul laisse. Et ça aussi, ces deux recommandations permettent de repenser un peu le travail et de retrouver une beauté, une noblesse. Premièrement, il dit, très intéressant, verset 11, « Mettre à votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. » Donc, une recommandation, comme nous l'avons recommandé, c'est de travailler de vos mains. C'est intéressant qu'il ajoute cette phrase « de vos mains ». Certainement, il ajoute exprès, parce que, justement, dans la société grecque, on louait le travail, mais surtout le travail intellectuel, hein, le travail de philosophe, ça c'était le summum, ça c'était le meilleur travail, les philosophes, et puis le travail manuel, c'était moins bien, moins noble. Mais si Paul dit, je vous encourage, je vous recommande de travailler de vos mains, certainement il veut corriger cette pensée. L'apôtre Paul, c'était quand même un intellectuel, il était capable de discuter avec les philosophes, mais on le trouve, il n'avait pas de problème, lui, à travailler de ses mains, et il rappelle assez fréquemment dans ses lettres, dans ses épîtres, qu'il associe le travail et les mains. Donc il y a quelque chose là qui peut nous encourager. Le travail manuel, le travail avec Dieu, il n'y a pas des travails nobles, les métiers bien et puis moins bien. Alors nous avons rencontré un peu cette pensée en Haïti et c'est un peu le fruit de ces réflexions qui m'a poussé à ce message, mais justement, ils nous disaient, et c'est eux qui nous expliquaient, que le travail du paysan, le travail de l'agriculteur est méprisé. C'est une honte, parce que, bon, on peut étudier les raisons historiques qui sont compréhensibles, ils ont un passé assez lourd, mais cette pensée, cette mentalité perdue, et ils nous ont même parlé de ceux qui font pousser les ongles du petit doigt pour montrer qu'il ne touchait pas la terre. C'était une manière de se, voilà, de se montrer qu'on était bien. Et en fait, il n'y a pas que Haïti. Chaque société a tendance de mépriser certains métiers et d'exalter d'autres. On a tous un système de classement. Il suffit d'être parent et de voir ce qu'on souhaite pour nos enfants et ce qu'on ne souhaite pas pour nos enfants, pour voir que oui, il y a un classement qui s'établit entre les métiers bien et ceux qui sont moins bien. Je pense même, il y a ce verset, c'est dans l'histoire de Joseph, mais les Hébreux étaient bergers, et puis Joseph explique, bon, quand vous venez en Égypte, on va vous mettre dans le pays de Goshen, parce que les bergers sont en abomination pour les Égyptiens, voilà. Les bergers, le métier de berger, pour les Égyptiens, c'était une abomination, certainement suite à leur religion, leurs idoles, leurs dieux, leur passé, j'en sais rien, mais ils avaient frappé de ce métier-là une abomination. Alors que berger, dans la Bible, Dieu ne voit aucun problème avec le berger lui-même, il se dit être le bon berger, Jésus est le berger, tout ça, David était berger. Donc, vous voyez comment chaque société... pour différentes raisons dans leur histoire, dans leur culture, peut-être certains travaux, surtout les travaux manuels, sont parfois frappés d'une honte. Mais selon la Bible, et ce qui est beau dans cette phrase, on a tous les métiers sont utiles. Je parle des métiers honnêtes, pas corrompus, pervertis, mais les métiers, l'ensemble des métiers peuvent être vraiment beau aux yeux de Dieu. Quelqu'un a remarqué que dans la création et puis dans l'incarnation, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui se salit les mains. Dieu, dans la création, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met ses mains dans la poussière, il met ses mains dans la terre et il crée Adam. Il a travaillé de ses mains pour faire l'homme qui était le chef-d'œuvre de sa création. Et puis dans l'incarnation, Dieu, encore une fois, il va en quelque sorte se salir, il va remonter ses manches et prendre la forme d'un homme. Et Jésus s'incarne et le comble, Jésus est charpentier, travail très manuel. Donc travailler de vos mains, c'est tout un, il me semble, une pensée qui anoblit l'ensemble des métiers. Je me souviens, on revenait de Haïti. Et on était à Londres. Et j'ai vu, et dans l'aéroport de Londres, et puis dans le métro à Londres, les gens qui travaillaient, ce qu'on appelle les agents de nettoyage, des agents de propreté. Et je me souviens d'avoir ce regard, j'ai vu ça, et les pensées m'ont traversé l'esprit. Quel beau métier, quel rôle précieux pour la société. J'avais envie de les remercier, de dire ça, c'est noble, c'est excellent ce que vous faites. Parce qu'on a vu un peu ce que ça donne quand il n'y en a pas. Même en France, il suffit que les éboueurs font grève pour quelques semaines à Marseille, à Paris, à Toulouse, et du coup, on apprécie, combien on apprécie ce métier. Donc, voyez, toutes sortes de métiers qui contribuent à la beauté de ce monde, à la productivité, à la vie humaine. Et Dieu les agrée, Dieu les aime. C'est lui qui a créé la notion du travail, le métier, et il nous encourage ainsi. Quand je pense aussi à cette phrase « travailler de vos mains », ça me fait penser à une autre chose. Justement, c'est souvent avec les mains qu'on produit, qu'on crée, qu'on va sculpter quelque chose. Et on pense à Dieu lui-même, le Créateur, il a façonné le monde, il a façonné Adam avec de la poussière. Et en quelque sorte, Paul dit « travailler de vos mains ». Ça ne veut pas dire qu'on aura tous un travail manuel, mais quand il dit « je pense que tout métier, tout travail, finalement, peut avoir un côté artistique. On pense aux travaux manuels, le travail manuel comme l'artisanat, mais dans tout métier, il me semble qu'il y a un côté créatif, un côté artistique qu'on trouve dans cette phrase de vos mains. Nous avons tous occasion de contribuer aux solutions, d'innover, d'inventer des solutions, que ce soit dans les petits domaines que Dieu nous confie ou bien des grands, d'apporter une créativité, une nouveauté, une idée. Pensez à notre monde, toutes les innovations, toutes les inventions dont l'homme a pu faire, c'est grâce à Dieu l'intelligence qu'il lui a donnée. Et c'est magnifique de voir le progrès, les inventions, la créativité, grâce à quelqu'un qui a eu une idée, qui a vu un problème, qui a réfléchi à une solution. Tout ça, en quoi ça plaît à Dieu, ça reflète sa nature de mettre de l'ordre dans le chaos, de prendre des choses vides, informes, et puis mettre de la forme et de les remplir. Donc, travailler de vos mains, être créative à la gloire de Dieu. On a tous cette occasion, et ça aussi, ça anoblit le travail. Donc, première recommandation, travaillez de vos mains. Et puis, une deuxième recommandation, on va terminer avec celle-là. Encore en verset 11, il dit « Mettez votre honneur à vivre tranquille. » Tranquille. Il nous donne cette recommandation, c'est toujours par rapport au contexte de travailler. Il leur demande de travailler pour qu'ils soient tranquilles. Et ça, c'est intéressant parce que pour beaucoup, justement, la source majeure qui enlève la tranquillité dans la vie, la source de stress, privation de tranquillité, c'est le travail. Mais il dit, en travaillant, vous avez l'occasion d'être tranquille. Et littéralement, cette phrase, c'est aspirer à être silencieux, à être calme. Aspirer à être calme, à être tranquille. Mettez votre honneur à être tranquille, à vivre tranquille. Il nous donne un conseil, je pense, pour le travail, déjà dans le choix du métier, dans le choix de notre travail, et puis comment le vivre. Parce que l'idéal, c'est qu'un travail qui nous permet de vivre avec cette tranquillité, et la tranquillité ici, c'est surtout cette paix intérieure, de savoir qu'on est à la place que Dieu nous réserve. Cette tranquillité peut venir de plusieurs endroits pour le chrétien, et c'est ça qui est beau. Travailler pour vivre tranquille. Chaque personne, Dieu nous a créés de manière différente, et chaque personne a certaines capacités, certains dons, certaines personnalités. Il va pouvoir utiliser ces choses dans son métier, et l'idéal, bien sûr, c'est un travail, un métier, un boulot qui correspond à ce que Dieu nous a, la manière que Dieu nous a créés. Et c'est ça qui va aider beaucoup pour cette tranquillité d'esprit. Souvent, on parle de vocation, sa vocation, son travail, sa vocation. Justement, une vocation, c'est un appel. Et oui, nous avons tous un appel de Dieu. C'est ça qui est beau, un appel de Dieu de faire quelque chose dans ce monde. Il nous a équipés de certaines manières, certaines capacités. Il nous a créés hommes ou femmes. Il nous a créés avec des dons, avec des talents. Et tout ça, il va nous demander de réfléchir un peu et de... ça va naturellement nous porter vers certains domaines, certains travaux où on va pouvoir être doué ou s'épanouir, et dans la mesure possible, Paul encourage de poursuivre une situation qui correspond à la manière que Dieu nous a créé pour cette tranquillité intérieure. Alors quand on parle d'être tranquille, mettre votre honneur à vivre tranquille. Un tranquille, ça ne veut pas dire un travail où l'on ne fait pas grand-chose. Beaucoup ont dit, ah, lui, il est tranquille, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Mais ce n'est pas ça. Justement, si on sous-estime le travail, ou qu'on ne travaille pas assez, on ne travaille pas, là, on va se priver de tranquillité. On aura du mal à vivre tranquille parce que l'argent va nous manquer, ou on va toujours être stressé, alors que Dieu nous appelle ici, il a dans 2 Thessaloniciens, il dit que ceux qui travaillent, bien, c'est vivre dans le désordre. Donc, c'est le contraire de la tranquillité, c'est ce désordre qui vient lorsqu'on a une vie non cadrée, une vie dissipée, sans travail. Donc, le problème parfois, c'est qu'on a pensé que moins on travaille, plus on sera tranquille. Mais il me semble que notre pays, la France, prouve le contraire. Aujourd'hui, on n'a jamais si peu travaillé et on n'est jamais si peu tranquille. Donc, ce n'est pas en travaillant moins qu'on est plus tranquille. Ce n'est pas ça l'idée de vivre tranquille. C'est plus l'idée de pouvoir être en paix avec soi, avec le monde autour de soi. Si nous avons un travail qui bousille notre santé, notre famille, notre relation avec Dieu, c'est peut-être pas là notre place. Ça ne veut pas dire que la solution est en soi de se démissionner tout de suite, mais la solution est peut-être déjà un travail de fond dans le cœur. Mais un travail qui bousille notre famille, notre santé, notre relation avec Dieu, certainement il y a un problème. Et la recommandation de Paul, c'est aspirer à cette tranquillité intérieure. Alors, il y a ceux, et souvent on les envie, ils ont trouvé le travail qui leur correspond parfaitement, ils aiment le travail, ils s'épanouissent. En plus, c'est un travail qui aide les gens, où vraiment il y a une grande utilité. Et certes, c'est le cas idéal, et je comprends que ce n'est pas toujours la réalité. C'est pour ça que Paul dit que c'est une aspiration, c'est une recherche, ce n'est pas toujours la réalité dans ce monde. Mais c'est là où le chrétien en a l'avantage. Même quand il n'y a pas la situation idéale au travail, il peut y avoir cette tranquillité intérieure. Et cette tranquillité vient d'une source très profonde pour le chrétien. Le chrétien, il a un accès à cette paix, cette tranquillité que le monde ne connaît pas. Nous avons parlé de ceux qui sous-estiment le travail. Et ça, c'est un problème pour se priver de tranquillité. Mais il y a d'autres dans notre société qui surestiment la valeur du travail et ils vont attacher finalement toute leur identité à leur travail, leur salaire, leur métier, leur place sociale. Et pour cela, ils surestiment la valeur du travail, le travail parce que pour eux, voilà, la source du salut, la source de permanence, le rocher, ben, c'est le travail. Et, ou la sécurité qu'il peut donner. Et donc, quand on vit comme ça, effectivement, on est obligé de se comparer avec les autres, de se juger en fonction de son travail, son salaire, son métier. Mais si on vit comme ça, vous allez voir, c'est impossible d'être tranquille. C'est impossible d'être tranquille parce qu'on va toujours être en compétition avec les autres. On va toujours jalouser les autres. On va toujours exploiter les autres. C'est impossible d'être tranquille si on attache toute son identité, tout son salut, tout son bien-être à son travail. Il y avait ce film, c'est un classique, Les chariots de feu. Vous avez certainement peut-être vu ça. C'est l'histoire de deux hommes. Deux hommes, un s'appelle Eric Liddell, c'est un Écossais, et il se destine à être missionnaire en Chine. C'est déjà l'enfant des missionnaires en Chine, et puis c'est ce qu'il va faire de sa vie. Et puis à côté de lui, un autre homme s'appelle Harold Abrams, et lui, ce que les deux ont en commun, c'est que les deux sont athlètes, les deux courent très bien, et les deux vont être ensemble aux Jeux Olympiques de 1924 qui se déroulent à Paris. Et les deux vont gagner des médailles d'or cette année, 1924. C'est une vraie histoire. Mais on compare ces deux hommes et leur motivation de courir, de réussir. C'est la force de ce film. D'un côté, il montre Liddell. Et à un moment, il parle avec sa sœur et sa sœur lui dit « Bon, tu perds le temps dans le sport, il faut que tu partes missionnaire, c'est là ta vraie vocation. » Et sa réponse, il dit « Oui, Je sais, je crois que Dieu m'a fait pour un but, ce but-là, mais je sais aussi que Dieu m'a fait rapide. Et quand je cours, je sens son plaisir sur moi. Vous voyez, il pouvait courir à la gloire de Dieu, être tranquille pour ce moment de sa vie, cette vocation qu'il avait, sportive, athlète. Et il savait qu'il pouvait courir à la gloire de Dieu. À côté de lui, il y avait cet autre homme, Abraham. Et à un moment dans le film, c'est juste avant la course, c'était le 100 mètres. Et lui, il dit, dans une heure, je serai là sur la piste. Je vais lever mes yeux. Je vais voir ce corridor large de 1 mètre. Et j'aurai 10 secondes pour justifier mon existence. Mais est-ce que je ferai? J'aurai 10 secondes pour justifier mon existence. Et vous voyez là deux attitudes très différentes. Tous les deux vont courir, tous les deux vont se fatiguer, tous les deux vont donner tout. Mais l'un va le faire de manière tranquille, de manière paisible, de manière reposante. L'autre va le faire de manière troublante, de manière jamais tranquille. Parce qu'il doit justifier son existence. Si je gagne, je justifie mon essence. Si je perds, je suis rien, je vaux rien. Et puis la différence va se voir, c'est le drame du film, c'est que Lidl, on lui demande de courir le dimanche. Lui, chrétien, il dit non, je ne cours pas le dimanche. Mais en fait, ça montre sa liberté, sa tranquillité. Il peut déclarer forfait. Il n'a pas besoin de sa médaille d'or pour justifier son existence. Et il a la conscience en paix, tranquille, de dire non. Dieu vient en premier pour moi. C'est pas le travail, c'est pas la médaille d'or qui me sauve. Il est déjà justifié. Et ça, c'est le chrétien. Il est tranquille parce qu'il est déjà justifié. Il n'a pas besoin de justifier son existence par son travail, son salaire. Son âme est tranquille. Il n'a pas besoin de travailler pour son salut parce que c'était déjà gagné. Christ, par sa victoire, il a mérité la nôtre. Il a travaillé pour notre salut. C'est lui qui a fait le boulot à notre place de justifier l'existence. Et le salut qu'il offre, ce salut sûr et garanti, le salut qu'il offre, c'est le meilleur CDI qui soit. C'est une alliance éternelle, un contrat qui ne va jamais se rompre. Un contrat d'amour, et ça il a signé avec son sang à la croix. Et quand on a cette sécurité là, voilà, on est tranquille, on peut vivre tranquille, même si au travail la situation n'est pas idéale, même si le patron, les collègues, le tout risque d'ôter notre tranquillité, notre sécurité. Le chrétien, il peut dire: je sens le plaisir de Dieu sur ma vie. Je sens que ce que je fais, ça donne plaisir à Dieu. Je sens son plaisir parce qu'il me voit à travers de Jésus-Christ, il me voit à travers la croix. Je sens son plaisir. Et ça, ça vaut plus que tout. Et ça nous permet de partir chaque jour avec paix, avec assurance, de plaire à Dieu.